Me fait attaquer par un micro. Bonjour à tous, ça va bien? La semaine passée, on a vu trois choses concernant la vision. Premièrement, on a vu deux géants dans notre Église qui sont parmi nous, qui nous laissent un témoignage. Et je vais être certain de bien me faire comprendre, ils sont encore parmi nous. Et j'invite à aller les voir et ils participent encore aux décisions. Il faut prendre l'expérience des personnes qui sont avec nous. Évidemment, j'ai pris deux personnes et j'aurais pu en prendre cinq si j'aurais eu plus de temps. Et je suis certain que vous êtes capable de prendre aussi des personnes qui influencent vos vies, qui ont marqué votre vie chrétienne et qui vous appellent, dans le fond, à un engagement aussi envers le corps de Christ. Deuxièmement, on a vu les buts, le fondement biblique d'une vision. Entre autres, la vision doit être en accord avec les buts fixés par Dieu. Elle doit garder l'Évangile au centre et elle doit correspondre avec les stratégies que Dieu nous a données à faire. Et on a étudié un petit peu Matthieu chapitre 28. Et troisièmement, on a regardé la dynamique de la vision dans l'Église et on a vu à ce point Éphésiens chapitre 4, où ce que le Seigneur nous fait des dons et il veut, en nous donnant ces dons, qu'on les manifeste dans le corps. Et en manifestant nos dons, avec cette diversité de dons, on va être capable de préserver l'unité dans l'Église et aussi de préserver l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais partir de ça pour qu'on puisse traiter de notre énoncé de mission en tant qu'Église. Et le titre que je donnais à la prédication, « Émerveillé par la grâce », en lettres majuscules. Parce que la grâce est notre énoncé de mission à l'Assemblée de Cap-de-la-Madeleine. L'énoncé de mission, glorifier sa personne, réconcilier les gens avec lui par Jésus-Christ, faire de chaque disciple un adulte dans la foi et dans sa conduite, qui vit dans une communion chaleureuse avec les autres croyants et qui s'engage activement dans le service envers l'Assemblée. Et aujourd'hui, les points que je vais traiter dans ça, c'est le premier, glorifier sa personne, et je me permets de sauter deux qui vont être un petit peu inclus dans le premier, parce que en fait, j'avais 3h30 de stock, et j'ai choisi d'y aller avec la communion et l'engagement dans l'Église. Et comment ça s'articule? Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à ça? Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux stratégies de l'Assemblée pour qu'on puisse atteindre le monde et atteindre aussi, par conséquent, notre cœur, parce qu'on provient de ce monde aussi. Et le message porte « Émerveillé par la grâce ». Et quoi de mieux que de commencer par son contraire? Et si vous êtes comme moi, vous avez déjà perdu l'émerveillement de la grâce et l'émerveillement de l'Église locale. Et si on a perdu cette merveille de la grâce dans notre vie, il est certain que notre engagement dans l'Église va en être affecté. Dans mon cas, par exemple, et je vous pose la question, avez-vous perdu l'émerveillement? Et dans mon cas, je dois avouer que je n'ai pas cru pendant longtemps à notre énoncé de mission. Parce que je ne comprenais pas comment que ça pouvait fonctionner, comment qu'elle peut rassembler qu'on puisse fonctionner dans un corps. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très réputé pour dire les choses avec une sagesse extrême. Et dans un document de 14 pages, j'ai essayé de reformuler la vision. Et au comité vision, j'ai soumis ce texte et je dois remercier les frères qui ont été patients envers moi parce que ça a été assez difficile. Et là, je voyais de la résistance à mettre une vision de l'avant ou à la réitérer. Et puis, ça ne fonctionnait pas. Et puis, peut-être que vous êtes comme moi, vous regardez les projets qu'on a eus qui ne semblent pas fonctionner, l'agrandissement de l'Église, par exemple, ou encore la façon qu'on va solliciter les personnes, la façon qu'on communique, la façon qu'on va vous solliciter pour faire un ministère, peut-être c'est pas un ministère que vous vouliez, et puis on regarde tout ça, puis le portrait commence à s'assombrir, puis il me semble que l'énoncé de mission grâce commence à manger une claque pas mal. Et puis moi, à un moment donné, je me suis dit, écoute, s'ils ne veulent pas changer, je vais essayer de la comprendre. Et puis mon problème, c'était que je devais redécouvrir le contenu du message de la grâce. Parce qu'un énoncé de mission annonce quelque chose. Ça l'annonce un contenu. Et c'est sur ce contenu qu'il faut qu'on porte notre attention. La façon qu'on l'a formulé à travers l'énoncé grâce, c'est simplement une façon qui nous donne une stratégie puis qui permet à l'Église de pouvoir avoir un filtre dans nos activités. Si un politicien, par exemple, veut venir ici à l'Église pour passer son projet politique, ben on va regarder, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que c'est l'Évangile qui est au centre? Est-ce que c'est basé sur la parole? Et ça permet d'avoir un filtre comme ça. Mais en même temps, l'énoncé de mission doit nous engager tous et chacun. Et l'émerveillement peut être perdu de plusieurs façons. Dans mon cas, c'était les technicalités. D'un autre côté, peut-être parce qu'on ne comprend pas que l'Évangile, on peut plonger les regards dedans et qu'on peut encore plonger les regards dedans et on peut encore creuser plus profond. L'Évangile, ce n'est pas simplement une espèce de credo qu'on a, qu'on affiche sur un mur ou une petite carte que « tu veux devenir chrétien? » signe en bas. Ou c'est pas de s'avancer pendant un appel. Et si on regarde qu'est-ce que Paul fait, et c'est à ce point que j'ai découvert ou redécouvert Éphésiens chapitre 1. chapitre 1, verset 4 à 6. Et quand j'ai fait le lien entre ce passage et la grâce de Dieu et notre mission, j'ai été convaincu de notre énoncé de mission. Et aujourd'hui, je vais vous partager ça. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. L'expression qui attire mon attention, c'est « célébrer la gloire de sa grâce » qui revient dans les 14 premiers versets à trois reprises. Verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et au verset 14, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire. Vous avez perdu votre émerveillement? On va regarder ce que Paul tente de nous dire. Et le désir de mon cœur aujourd'hui, dans ce deuxième message concernant la vision, est très, très clair. Encourager, exhorter, équiper et mobiliser dans la vision de l'Église chacun d'entre vous. Peut-être vous faites partie d'une autre Église, vous êtes en visite aujourd'hui. La grâce s'applique pour vous aussi. Vous allez pouvoir amener ça dans votre Église. Vous l'avez peut-être formulé votre vision d'une façon différente, mais c'est la base de la communion avec Dieu. Énoncé mission de OCCM, Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine, grâce. En premier, on a ceci. Dans une phrase complète, on dit « En réponse à la grâce dont Dieu a fait preuve à leur égard, les membres de l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine croient qu'il leur confie la mission de glorifier sa personne. » Il semble que quand on regarde dans la Bible et qu'on se pose la question « Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? » Invariablement, ou quand que Dieu décide de nous donner les motifs du pourquoi qu'il fait quelque chose, c'est toujours pour la même raison, pour ma gloire ou pour mon nom. Et quoi de mieux que de donner des exemples? Il nous a prédestinés pour sa gloire, Éphésiens 1, 5 et 6. Il nous a créés pour sa gloire, Isaïe 43, 6 et 7. L'incarnation de Jésus dans Jean 1, 14, qui était la gloire de Dieu, qui était Dieu, qui est venu sur cette terre, l'envoi d'un sauveur pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 2, 10 à 14, son amour l'a poussé à prier pour nous et mourir pour nous dans Jean 17, pour la gloire. Le salut parce qu'il nous aimait et pour sa gloire dans Philippiens 1, la sanctification dans 1 Pierre 1,9, il veut nous amener dans sa gloire. Le but, c'est toujours la gloire de Dieu. Et par conséquent, la mission de l'Église, psaume 96, 3, raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi les peuples. Habacuc annonçait déjà ça d'avance. La terre va être remplie de sa gloire. Comment? Avec un peuple qu'il va se racheter. Et à travers ce peuple, la mission de l'Église, ça va être de répandre sa gloire sur cette terre. Et psaume 96, ce n'est pas un psaume qui est limité à Israël. Il n'y a même pas d'introduction, ce psaume-là. Ce n'est pas un psaume qui concerne Israël avec le temple. Le temple n'est même pas construit. C'est un psaume pour tout le monde. Notre mission ici-bas sur cette terre, c'est de proclamer la gloire de Dieu. Et il le fait à travers une Église qu'il sait racheter et qui décide d'y aller à travers les témoignages. Mais suite à la question, qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? La question qui suit, c'est comment ça peut être le plus important pour moi? Parce que si c'est plus important pour Dieu, ça doit être plus important pour moi. Et si c'est le but de Dieu dans ça, la mission de l'Église de Cap-la-Madeleine doit être aussi d'accomplir le but pour Dieu. Et c'est pour ça, je crois, à l'énoncé de mission grâce, parce qu'on met la gloire qui va entacher toute notre mission. Et maintenant, ben, faut rappeler ces choses, faut ramener ça. Mais s'il nous a créés pour qu'on puisse l'adorer, pour sa gloire, quel genre d'adoration rend le plus gloire à Dieu? Et il semble que Jésus donne un passage assez clair, une réponse assez claire à cette question. Et j'aimerais regarder un petit peu quelques réflexions sur l'adoration ici même à l'Assemblée de Cap-la-Madeleine. Et je vous invite à tourner notre premier passage, parce qu'on va en regarder quelques-uns, dans Jean chapitre 4. Jésus qui parle avec la Samaritaine. Et puis, le sujet de la discussion concerne justement comment adorer Dieu. Et Jésus lui dit au chapitre 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » La question avec cette femme concerne moins le « où » que le « comment » et le « qui » adorer. Au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il est en train de dire qu'il y a une mauvaise façon d'adorer. Il peut avoir des façons qui sont vaines d'adorer, puis d'un autre côté, il y a une vraie façon d'adorer. Mais aussi, c'est qu'il continue en disant, « Nous, nous adorons ce que nous connaissons. » Et donc, la base de l'adoration concerne une personne qu'il faut connaître. Et donc, la question « qui et comment » prend tout son sens. John Piper a dit ceci, « L'adoration doit être l'expression d'un élan du cœur vital et authentique, et elle doit s'appuyer sur une juste perception de Dieu. » L'adoration ne met jamais la volonté et les émotions de côté, mais ne met jamais aussi l'intelligence de côté. Et Jésus pousse en avant deux expressions, « adorer en esprit » et « adorer en vérité ». En esprit, c'est le contraire d'adorer avec un formalisme religieux strict, codifié, code de loi. C'est le contraire. Mais adorer en vérité aussi, c'est une adoration qui est basée sur cette vérité, mais c'est un équilibre entre l'émotion, notre volonté et notre désir d'adorer, mais aussi la vérité, notre intelligence qui, elle, comprend des choses. Et si l'adoration, c'est le but pour nous, il faut qu'on pose la question à Cap-la-Madeleine, quelle stratégie l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine a-t-elle adoptée pour provoquer, pour susciter un culte qui rende gloire à Dieu? on vient d'un mouvement de frères. Dans le mouvement des frères, on a comme tradition d'Église, dans notre bagage historique, de pratiquement centrer notre réunion du dimanche matin autour d'au moins un élément, le repas du Seigneur. Et j'aimerais qu'on réfléchisse au repas du Seigneur en termes d'adoration. Évidemment, ce n'est pas le seul, il y a la louange, la prédication et tout ça, mais j'ai choisi d'y aller avec le repas du Seigneur. Pour plusieurs personnes, on n'a aucun bagage historique de c'est quoi le mouvement des frères. Toute la jeunesse qui est dans le coin là-bas, si on lui demande de retracer l'histoire des églises des frères, ils ne savent pas. Et si vous êtes plus vieux, peut-être que vous ne le savez pas. Et ça, ça soulève des défis pour notre Église. Des défis sur la communication, entre autres. Et je ne veux pas dénigrer les autres mouvements ou les personnes qui ne pensent pas exactement comme l'Assemblée, parce que nous, on a choisi en tant qu'Église de le faire à tous les semaines. Et il y a des avantages à faire ça à tous les semaines, entre autres. On garde l'Évangile central, on peut méditer sur la personne de Jésus, on peut se préparer dans la semaine aussi. Ça peut être un événement dans lequel on peut arriver à la repentance. Mais quand même, il y a des objections face à ça. Certaines personnes, et même dans l'Église ici, soulèvent l'objection suivante concernant la fréquence du repas du Seigneur à toutes les semaines. Il y a ce danger que cela devienne une routine. Et donc, il y a une perte de sens et de but. Et puis, nous, il faut qu'on explique ces choses, parce qu'en tant qu'Église, on a décidé de faire ça central. Et est-ce que la routine, c'est vraiment le danger? Concernant le repas du Seigneur, concernant l'adoration, avant de répondre à cette question, j'aimerais soulever trois défis pour illustrer l'importance de réfléchir à comment on fait le repas du Seigneur pour nous en 2011 à Cap-la-Madeleine. Premier défi. Dans notre assemblée, on a une jeunesse qui a grandi. Ils sont devenus des jeunes adultes. Ils commencent à étudier la Bible, il y a des conversions, et des conversions de personnes qui n'ont jamais vécu d'une famille chrétienne, qui rentrent dans l'Église, et là on a le problème de la jeunesse, qui n'ont pas tout ce bagage historique pour comprendre pourquoi on fait toutes ces choses-là, de la façon comme on les fait. Pourquoi vous avez pris telle décision dans le passé? Pourquoi telle autre? On ne le sait pas. Et les questions commencent à faire surface. Et nos jeunes dans notre société sont confrontés à diverses philosophies, à un courant de pensée qui va à l'encontre de ce qu'on fait ici dans l'Église. Et les questions se posent. La place de la femme, la place de l'homme, c'est quoi l'avortement, je n'ai parlé un petit peu tantôt, c'est quoi toutes ces choses-là, c'est quoi les décisions, est-ce qu'on est libre? La liberté, la démocratie, on devrait tout être égal. Et là, ça vient, et on est enseigné là, dans ces choses-là, et ça nous amène à poser la réflexion sur la façon qu'on fait le repas du Seigneur dans l'Assemblée. Il faut expliquer pourquoi. On a pris des décisions, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il y en a qui n'étaient peut-être même pas nés dans ce temps-là. Il y a des personnes qui n'étaient même pas converties dans ce temps-là, fait qu'ils ne savent pas pourquoi on a décidé de faire le repas du Seigneur de cette façon, et pourquoi c'est l'élément central de notre culte. Et alors, les jeunes, qu'est-ce qu'on entend? Ça devient un formaliste, c'est légaliste. Le repas du Seigneur toutes les semaines, vous nous obligez de faire ça. Ça, c'est légaliste. Il y a une perte de sens. Ça brime la créativité. Mon individualité est brimée. J'ai entendu ces choses-là. La liberté d'expression. Et là, on a une illusion d'une église parfaite. Regardez l'autre église là-bas, elle semble bien mieux. Et là, des personnes viennent nous voir, puis moi, je suis en train de vouloir penser, moi, je pense à ça, là, puis moi, je pense que je vais changer d'église, là. Ils ont toute une louange là-bas, ils ont des enfants. Puis là, ça, c'est parfait, ça. Mais nous, on n'a pas du Seigneur toutes les semaines. On est déconnectés. Mais il est facile de mettre le blâme sur les jeunes. Deuxième défi. Nos vieux. Pour nos plus vieux, souvent, sont éduqués dans une église catholique qui les enseignait à ne pas trop parler, à s'asseoir sur le banc d'église. On voyait le curé faire ses affaires en avant. Même si on ne comprenait pas, maintenant, on savait qu'on se levait, on s'agenouillait, on se relevait, on s'assoyait. Puis tout était codifié. Puis à un moment donné, ils nous appelaient, puis on allait prendre l'hostie. C'était comme ça. Et là, on se convertit au christianisme véritable, biblique. On arrive dans l'église. Je parlais à Jean Lépine. Jean Lépine me dit, pour moi, c'était normal. La seule différence, quasiment, au départ, à première vue, c'est ils prennent le pain et le vin. Nous autres, on prenait le pain, mais pas le vin. Ils ont tout le monde une Bible dans la main. Ah, tiens, gardons ça. Tu sais, fait, c'est normal de venir s'asseoir dans l'église comme ça. Et pour eux, ça devient souvent une habitude. Et en même temps, on peut arrêter de réfléchir parce que c'est rendu justement une habitude. Et là, le manque de créativité peut arriver, le manque de réflexion à communiquer le message de l'Évangile. On s'enferme dans notre langage évangélique et on est bien. Nous, on se comprend. Là, on est bien ensemble, on vient dimanche matin. Et puis là, la jeunesse nous semble extrémiste. Les jeunes, c'est des extrêmes aujourd'hui. Et puis les jeunes sont là et ils disent « Les vieux sont extrémistes, là, au bord. » Et là, on pose la question « Qui a raison? » Bon, c'est ceux qui dirigent, mais... c'est pour ça que ça prend de la jeunesse dedans. Et puis là, on a un phénomène incroyable dans notre société, puis c'est vrai dans l'Église. C'est que là, on pose la question, qui est la relève? Et puis là, pour illustrer, je vais prendre un exemple que je connais très bien, le judo. Ça fait 25 ans quasiment je fais du judo. Et puis dans nos clubs, à un moment donné, les enfants deviennent grands. Et puis on est sur le bord de donner la relève, et là, on fait miroiter qu'un jour, ils vont avoir les clés du dojo du club, puis là, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, puis là, ils vont... Puis là, on les encourage, puis on les encourage, puis après 2, 3, 4, 5, 6 ans. Coudonc, vas-tu l'avoir à un moment donné, la clé? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une division dans le club de judo, ça, c'est pratiquement inévitable. J'ai vécu 3 divisions de clubs de judo parce qu'on a fait miroiter à la relève qui, à un moment donné, il allait avoir la place et il ne l'avait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la rue à côté puis ils ont parti à un autre club de judo. Et il a fait fermer le plus vieux club. Et puis dans nos églises, on n'est pas tellement différent. Le mouvement des frères, on ne se cache pas qu'il est en diminution en nombre d'églises aujourd'hui. Dans les dernières années, on est passé de 50 à 30 quelques. Et si on pose la question combien de nos jeunes sont ici, sont rendus pasteurs dans un autre mouvement d'église, la statistique peut être alarmante. Mais Cap-la-Madeleine, quand même, a beaucoup investi dans la jeunesse. Mais ce n'est pas parce qu'on a pris des bonnes décisions dans le passé qu'il faut qu'on arrête de réfléchir et qu'on s'assoie sur des bonnes décisions, justement, dans le passé. Troisième défi. Il peut peut-être plus d'actualité. Parlons de notre langage évangélique. Notre monde autour de nous ne savent plus qui est Jésus. Ma fille, 5e année, au primaire, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était la seule qui croyait en Dieu. Les personnes ne savent même pas c'est qui Jésus. 5e année au primaire. Et ça va se convertir et ça va venir dans notre église. Et là, nous autres, on arrive au repas du Seigneur, on se lève au micro, et là, j'ai fait une série de mots. Et des fois, ils sont tous dans la même phrase. Sanctification, propitiation, expiation, et tous les autres mots qui terminent en « on » comme adoption, soumission. Et puis, ça ne veut plus rien dire. Et le défi, ce n'est pas d'arrêter de communiquer ça puis de s'enfermer sur nous, mais c'est de communiquer le contenu de ce qui fait notre identité en tant qu'Église. C'est ça le défi. Il ne faut pas arrêter de réfléchir et dire « nous, on est bien » puis on se comprend là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire avec ces 3 défis-là? Le repas du Seigneur, ça, c'est pour les chrétiens de toute façon. Les inconvertis viennent à la deuxième période. Fait qu'on n'a pas trop à se casser la tête, on peut rester dans notre jargon évangélique. Mais on est plus de 300 dans l'Église. Fait, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Jésus qui vont se pointer dans l'Église. Et pourquoi que dans 1 Corinthiens, et on va regarder tantôt, pourquoi qu'il nous dit « Prenez ce pain de mon, présentement de mon corps qui a été brisé dans le passé. » Voici les traditionnalistes, ceux qui veulent vivre dans le présent. Mais on annonce aussi. Et l'annonce est toujours et invariablement une annonce intelligente et intelligible dans les Écritures. C'est une annonce. Il nous a donné le repas du Seigneur pour qu'on puisse garder l'Évangile central. Et si on n'est plus capable de communiquer l'Évangile dans le repas du Seigneur, mes amis, mes frères et sœurs, on est à côté de la traque. On est dans le champ. Et l'objection principale, bien, c'est que la fréquence de ces traditions peuvent entraîner une perte de sens. Et comment répondre à cette objection? La réfutation est assez simple et radicale. Qu'est-ce que vous faites avec la louange, la prière, la prédication et toutes les autres activités de la vie chrétienne courante normale? Le problème, ce n'est pas avec la prescription de ce que le Seigneur nous a donné à faire pour se rappeler de l'Évangile. Le véritable problème, c'est notre cœur. Et même si on réfute relativement bien ce genre d'argument, juste en réfléchissant un petit peu avec la louange, la prédication, dans le fond, c'est notre cœur. On trouve peut-être ça moins intéressant ou moins dynamique. Mais la véritable question, c'est justement ton cœur. Et comment, dans le fond, qu'on peut répondre à tous ces défis? Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Le mieux, c'est de regarder ce que dit l'Écriture. 1 Corinthiens 11, verset 23 et suivant, nous dit « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, elle, la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement. Voici une façon d'avoir un culte d'adoration vain. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de cette coupe. Les termes de Paul dans ce passage nous expliquent que le repas du Seigneur, c'est une proclamation de l'Évangile. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans l'institution du repas du Seigneur. Voyez Jésus qui est mort, il nous a dit, il fait ceci. C'est l'Évangile, ça, qui est ressuscité, puis on annonce. C'est ce que le Seigneur nous a laissé. Et le Seigneur ne nous a pas donné beaucoup de traditions à respecter dans notre vie chrétienne. Il nous a donné au moins trois. Le baptême, vous allez les baptiser, faites ceci, le repas du Seigneur, et troisièmement, la prédication. Et quel est l'élément commun entre ces trois choses? C'est l'Évangile. Ces trois éléments qui nous est donné dans la Bible pour qu'on puisse garder l'Évangile central dans la vie de l'Église. Et si le Seigneur veut toucher notre cœur avec l'Évangile et qu'il veut qu'on fasse ces choses pour se rappeler, évidemment, c'est parce que s'il y a une exhortation à se rappeler, c'est probablement parce que j'ai tendance à oublier. Mais en même temps, il veut qu'on soit transformé par cet Évangile. Et voyez-vous, le repas du Seigneur concerne notre cœur. Il concerne notre cœur. Et 1 Corinthiens 10, c'est le texte qui parle du repas du Seigneur aussi. Mais le texte d'1 Corinthiens 10, avant de parler du repas du Seigneur, il y a le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez-en vous-même de ce que je dis, la coupe de bénédiction. Et là, il y a une transition entre les arguments qui précèdent dans 1 Corinthiens. Et puis là, il veut s'en aller vers le culte véritable et il parle du repas du Seigneur. Mais il parle du repas du Seigneur dans un contexte où l'idolâtrie est un réel défi pour l'Église de Corinthe. Et les Corinthiens avaient tendance à mettre de l'emphase, et on voit dans les chapitres qui précèdent, avaient tendance à mettre de l'emphase sur la capacité d'une personne à être un bon orateur. Et ce n'était plus l'Évangile qui était devenu la puissance. Et ça, c'est tout le chapitre 1. Je vous ai transmis avant tout, chapitre 15. Et là, il rappelle encore cet Évangile. Et il y a toute cette section du chapitre 11 à 14 qui est en train de nous dire « Cet évangile va transformer votre vie. et va faire en sorte que vous allez être des adorateurs. Et les conseils de Paul sont appropriés parce qu'ils servent d'antidote à l'idolâtrie, ce qui a tendance à attirer notre amour vers les choses. Et le Seigneur nous dit, regarde, repas du Seigneur, là, ça rappelle ces choses. Pourquoi? Ça concerne votre cœur. Et j'aimerais vous suggérer que quand il dit que chacun donc s'examine soi-même, et qu'on va un petit peu plus loin, au verset 31, et il nous dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Et j'aimerais vous dire que s'examiner soi-même correctement amène toujours à la repentance. Voici pourquoi le repas du Seigneur concerne votre cœur. Et voici pourquoi l'énoncé de mission de Cap de la Madeleine concerne votre cœur et le mien aussi. Mais pourquoi parler du repas du Seigneur et de l'adoration dans une prédication concernant la vision? Eh bien, ça nous fournit le cadre stratégique, ça nous fournit les motifs et le but qu'on cherche à viser. Et le but, viser, c'est votre cœur. La stratégie est bonne. Et quand on regarde ces défis, la véritable question concerne moins la forme de la façon qu'on fait le repas du Seigneur que de l'état de notre cœur. Et quand il va arriver des événements ou des situations où ce qu'on va vouloir mettre de l'avant des changements concernant justement ce qu'on, soit c'est une tradition pour nous, ou soit de l'autre côté qui vont dire que c'est enfin, il était temps qu'on change ça, puis pour eux, il y a une perte de sens dans ce qu'on est en train de faire, comment allez-vous réagir? Avez-vous déjà dans votre cœur votre réponse déjà toute faite? Amertume. À main qui touche à ça, là, c'est officiel, je le ramasse après la réunion. Je vais le surveiller. Je vais rouspéter. Je vais faire 3-4 téléphones pour être certain que... Mais la gloire de Dieu entache tout. Tout. On pourrait dire que elle entache la communion dans l'Église, la réconciliation pour la gloire de Dieu, notre communion pour la gloire de Dieu, l'engagement dans l'Église pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu reflète partout, a des ramifications partout dans notre vie, et j'ai choisi d'y aller avec la communion. Dans notre énoncé de mission, il nous dit qu'il vit dans une communion chaleureuse avec les autres, pour la gloire de Dieu. On veut glorifier Dieu en étant accueillant, chaleureux, afin que la gloire de Dieu puisse sortir de Cap de la Madeleine vers les extrémités du monde. Et j'aimerais vous suggérer encore un texte qui, à mon sens, est très pertinent, et je vous invite à tourner dans Romains 15, 7. En communion pour la gloire de Dieu. Romains 15, 7. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. C'est-tu clair? OK, on va régler de quoi tout de suite. Prendre une bière avec quelqu'un, c'est pas de la communion, ça c'est de l'amitié. La communion a toujours la notion de relation d'intimité entre deux personnes qui a un fondement, et le fondement biblique de la communion qu'on a ensemble, c'est Jésus-Christ. Prendre une bière, un café, un repas, un souper, ça c'est de l'amitié, ça se dit. Je dis pas qu'il faut pas qu'on en aille. Mais la communion dans l'Église, c'est qu'on a un même fondement, il y a une intimité relationnelle. Mais cette intimité relationnelle est dynamique. Regardez le texte. « Faites-vous mutuellement bon accueil. » Donc, je m'oublie un peu, je vous fais bon accueil, mais en même temps, si vous appliquez ça, vous allez me faire bon accueil. Et tout le monde ensemble, on va avoir des relations qui vont être privilégiées. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Mais en même temps, cette communion, l'exhortation n'est pas d'aimer tout le monde parce qu'ils sont aimables. Je ne suis pas aimable. Ceux qui me connaissent le savent, hein, Will? Amen. Mais vous aussi, vous n'êtes pas aimable. Mais il ramène encore à l'Évangile, faites-vous mutuellement bon accueil, et comme si c'était facile, regardez le petit bout de phrase, comme Christ vous a accueilli. Soyons directs et francs. Frédéric Godin nous dit ceci, même si nous avons des opinions divergentes, quelques froissements à pardonner, des concessions à faire, il y a une chose qui doit nous élever au-dessus de tout, de toutes ces misères, le souvenir de l'amour avec lequel Christ nous a reçus en grâce. Pour reprendre une expression de Frédéric Godin, je continue un petit peu plus loin dans son texte, l'Église doit être le théâtre d'un amour mutuel parfait. Dietrich Bonhoeffer nous dit ceci, nous appartenons les uns aux autres que par et en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, premièrement, qu'un chrétien a besoin des autres à cause de Jésus-Christ. Cela signifie, deuxièmement, que le chrétien vient à d'autres seulement par Jésus-Christ. Cela signifie, troisièmement, qu'en Jésus-Christ, nous avons été choisis de toute éternité, acceptés dans le temps et unis pour l'éternité. Toutes des personnes non aimables, mises dans un seul corps afin que mutuellement on puisse manifester cet amour que Christ a eu pour nous. Et la façon dont on va agir dans nous. Tu sais, je crois à tous ces projets, comme par exemple le filet qu'on cherche à mettre en place pour être accueillant. Tu sais, on met des personnes avec une belle étiquette, tu sais, soyez le bienvenu. Ça, c'est pas l'accueil, ça. Tu sais, c'est le premier fil, tu sais, bienvenue, OK, on vous connaît, puis tout ça. Puis je crois à toutes ces choses-là, le filet, on rencontre les personnes, on veut aller les voir dans la semaine. Tu sais, j'y crois à toutes ces choses-là. Mais ça donne quoi si la majorité du monde est assis sur le banc et ils font rien? Ça donne rien. Ils n'auront pas plus le goût de venir à l'Église, ou du moins ils vont dire « Hey, tabarouette, j'ai été accueilli assez rapidement dans cette Église-là. » Mais la semaine après, quand ils vont être assis sur le banc d'Église, puis que les deux autres années qui suivent, ils n'ont jamais eu une relation avec quelqu'un intime et personnel dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous pensez qui allait arriver? J'y crois au filet, il faut le mettre de l'avant. Mais l'accueil, c'est pour tout le monde, ça. Et soyons pratiques ici. Faire référence à l'amour de Christ qui nous accueille dans son Église implique non seulement la base sur l'accueil, sur laquelle il nous accueille, mais cela nous parle aussi du style avec lequel nous devons accueillir les autres. Comme Christ. Il y en a qui ne sont pas aimables, mais comme Christ, il s'est donné pour lui. J'ai peut-être une antipathie avec toi ou vous envers moi, mais comme Christ. Et quoi de mieux qu'une illustration réelle tirée de l'Assemblée? Cette année, je parlais avec un couple de personnes plus vieux un petit peu que moi, de 20 ans. Et puis, à un moment donné, on tombe tout seul. Et puis, la dame, elle me dit qu'elle a de la difficulté dans l'Église à avoir des relations avec des personnes parce qu'il y a des personnes qui y notent encore le fait que son adolescent a été rebelle il y a de cela 15 ans. Elle quitte l'Église, elle revient dans l'Église. C'est encore ça. Et vous savez-vous quoi? Son adolescent est chrétien et fréquente l'Église aujourd'hui ici. Et on note encore ça il y a des années de ça. L'Église doit être le lieu de renouvellement du chrétien. Vous avez fait un péché, la grâce abonde. C'est le style dans lequel on était racheté. Faisons grâce aussi aux autres. Il y a quelque chose de doux dans le mot grâce. C'est comme si j'arrive avec des fleurs à ma femme le jour de sa fête qui était hier. Et puis j'arrive à ma femme puis je dis, tiens, voici les belles fleurs. Et là, l'émerveillement de l'amour, qu'elle, les sentiments qu'elle ressent avec moi. Et puis là, elle s'en vient, elle s'approche, puis elle veut m'embrasser. Puis là, soudainement, je dis, « Oh, il n'y a rien là, je souhaite mon devoir. » Est-ce qu'on se sent comme ça dans l'Église? « Faites mon devoir, je suis allé y parler. Et puis faites mon 2 minutes. » maintenant. L'énoncé de mission termine par ces mots et qui s'engage activement dans le service à travers l'Assemblée. Quel peut être le remède à une personne qui a perdu l'émerveillement de l'Église, l'émerveillement de s'investir dans l'Église, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui pourrait donner un zèle nouveau dans votre vie? La réponse, la grâce de Dieu. C'est pour ça que dans Timothée, il dit à Timothée, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. » Pierre termine une de ses lettres en disant, « Mais croissez dans la grâce. C'est le terrain dans lequel on peut se tenir et grandir. » Et commençons par Éphésiens chapitre 1. Il faut s'émerveiller de la grâce. Et voici notre énoncé de mission. Et j'ai décidé de façon personnelle d'y mettre un verset, parce que si on a perdu, tout comme moi j'avais perdu cette vision, c'est le verset qui me ranime. Mais quand on regarde le contexte d'Éphésiens, il est clair dans ce qu'il veut nous dire. Le premier chapitre est vraiment intéressant. C'est la plus longue phrase du Nouveau Testament, 202 mots, phrase dans l'original ininterrompue. Ça a toute une signification. Célébrer la gloire de Dieu. La gloire d'Éphésiens a plusieurs particularités. Premièrement, la gloire de la grâce est le but. C'est le but. Mais le fondement de cette adoration, de cette célébration, le fondement, c'est dans son amour. C'est une marque d'amour qu'il fait de nous donner l'habileté de se réjouir en lui et de célébrer sa gloire. Et Paul, dans une phrase ininterrompue, veut qu'on s'émerveille de ce que Dieu a fait dans la vie d'un croyant. Il nous a adoptés, il nous a prédestinés, il nous a rachetés, il nous a donné la rédemption, il nous a... Et c'est comme Will disait, c'est comme son bruit au boyau d'un camion de pompier, là. Il finit plus. Puis il termine avec une des plus belles prières dans la Bible, tout le restant du chapitre, et il veut qu'on s'émerveille de tout ce que Dieu fait pour nous. Je lisais un commentaire, plusieurs commentaires sur Éphésiens, et on a tendance à classer ce premier chapitre comme une introduction aux bénédictions du chrétien. Mais la pratique, ça, ce chapitre 3, 4, 5, 6, tu sais, la famille, les relations, les dons qui se manifestent, les dons de grâce. Mais c'est le chapitre 1 aussi. C'est pas un exposé théologique fait pour une école biblique. C'est pas une théologie systématique. Il veut que ce soit pratique. Il veut que ça vienne dans nos vies, que ça produise quelque chose, la transformation de notre cœur pour qu'on devienne des adorateurs. David Paulison dit ceci, « Il souhaite bâtir un message qui favorisera l'exercice du ministère, d'un ministère envers des personnes réelles. » Mais Paulison continue et il donne trois raisons pour lesquelles on pourrait mal comprendre l'épître d'Éphésiens. Premièrement, c'est qu'elle est incompréhensible sans l'esprit. Deuxièmement, les débats qu'on peut avoir sur l'unité, la structure de l'Église, qui nous amènent loin, finalement, du but que Paul veut accomplir dans notre vie. Tous ces conflits personnels dans l'Église. Troisièmement, les desseins de notre cœur. Et il le qualifie comme obstacle majeur à notre compréhension. Et il dit ceci, notre habileté à comprendre l'épître aux Éphésiens est proportionnelle à notre disposition à le vivre. C'est une théologie pratique. Paul veut nous montrer comment être transformé. Imaginez le lecteur, le premier qui a ouvert la lettre d'Éphésiens. Il ouvre la lettre, il se rend compte qu'il y a un auteur, Paul, qui est apôtre. Hey, Dieu nous communique un message. Et puis là, il y a une bénédiction, verset 3, « Béni soit le Dieu le Père. » Et ensuite de ça, il y a la plus longue phrase du Nouveau Testament qui finit plus, elle des bénédictions, et le plan est clair, Dieu veut t'utiliser. Et il veut que tu t'émerveilles. Et les mots même, « célébrer la gloire de sa grâce », c'est révèle le cœur de Paul qui dit qu'il s'émerveille. Paul, le théologien des théologiens, réussit encore avec toute l'étude à s'émerveiller de cet évangile. Vous avez perdu votre émerveillement? Regardez à Éphésiens, regardez la parole. Éphésiens, c'est quoi? 155 versets, 120 font directement référence à Jésus-Christ, 80 à Dieu, 15 au Saint-Esprit. Il utilise le « vous » à au moins 80 reprises et le « nous » à au moins 45 reprises. Si on calcule, Jésus revient, Dieu revient à une fois et demie par verset. Et vous revenez au moins une fois par verset, pratiquement. Quel est le but de Paul? Que vous soyez transformés par cet évangile. La grâce est la base d'un engagement qui rend gloire à Dieu. Ça pousse à l'engagement. Éphésiens chapitre 4, il en arrive là. T'es émerveillé, mais regarde, il t'a équipé. Puis dans l'équipement qu'il t'a donné, vas-y, sers. Le fondement, la grâce de Dieu dans son amour. Je termine par des applications assez directes et brèves. L'énoncé mission commence par ceci. En réponse à la grâce dont Dieu a fait preuve à notre égard, et je vous pose la question, quelle est votre réponse à la grâce? C'est quoi votre réponse? Vous savez que nos budgets sont à sec, on a un beau casse-tête en tant que diacre, on se fait critiquer aussi parce qu'on se dit qu'on gère mal, mais à un moment donné, on gère qu'est-ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a reflète le cœur de l'Église? Et tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. J'aimerais vous suggérer des alternatives pratiques à la grâce, et je vais en avoir deux qui ont plusieurs ramifications. La grâce doit nous interpeller. 2 Corinthiens 8, 1, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Quoique très éprouvés par les tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. » Comment mettre en une phrase les mots « joie, pauvreté, tribulation » dans la libéralité? La grâce de Dieu nous interpelle si fortement et activement qu'elle doit se répercuter dans notre portefeuille. 20% des paroles de Jésus pratiquement concernaient l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une des plus grandes entraves au fait qu'on va être des adorateurs. 20% des paroles de Jésus concernent l'argent. Comment que la grâce s'est manifestée? Dans la libéralité. Par le choix des chrétiens de donner. Regardez le verset 9 encore, du même chapitre. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » La grâce est synonyme de la libéralité dans le passage. À cause de sa grâce, on est appelé à donner librement. C'est une marque d'adoration dans la Bible. La Bible est claire là-dessus. Là où est ton trésor, va être ton cœur. En tant qu'Église, on s'est engagé dans un budget et on ne le rencontre pas cette année présentement. On est à ça de couper dans les quatre premières lignes du budget. Vous faites partie de l'Église? Gardons notre cœur. Et évidemment, j'hésitais parce que moi aussi, je me suis interpellé dans ce passage. Aimez-vous mieux donner la dîme, vivre dans l'Ancien Testament? Tu sais, la dîme, ça, c'est facile. Ou le Nouveau Testament, je donne comme que je veux. Mais si je donne comme que je veux, est la marque de mon adoration. Deuxièmement, la grâce doit nous interpeller dans le service. Le christianisme, c'est l'échange de tout ce que je suis pour tout ce que Dieu est. Mark Stroud a dit ceci, « Oui, il nous aime. » Mais il nous aime trop pour nous laisser tel quel. Alors, qu'est-ce qu'il fait quand il a fini de faire son œuvre de rédemption? Il nous demande de nous engager dans l'Église. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4. Leader, Éphésiens 4 nous dit d'investir dans le perfectionnement. Peut-être qu'on a eu des manquements dans les années là-dessus. Peut-être. Et tout le reste du peuple, c'est facile de dire qu'ils ont eu des manquements. Et maintenant, ma deuxième application, vous, faites l'œuvre du ministère, parce que le texte continue. Comment faire l'œuvre du ministère? Vous manquez d'idées, j'en ai quelques-unes ici. à cause du don de grâce que vous avez reçu, investissez dans l'assemblée. Cherche l'école du dimanche. Vous pensez que vous avez le don d'enseignement? Ce n'est pas juste en avant ici, c'est partout. Commencez à être des enfants. Commencez dans les petites choses. Déneigement, ménage. Là, on a besoin pour déneiger là, les marches. Là. Savez-vous que dans les dernières années, c'est une personne qui a de la misère à marcher, qui déneigeait les marches, qui avait une pelle dans les mains, qui est physiquement, qui tu sais, m'emmenait la jeunesse, là, let's go. Là. J'ai donné des exemples la semaine passée de personnes qui pouvaient avoir un ministère, même quand ils marchaient 1 km/h, dans l'exhortation, la prière. Il y a plein de places qu'on peut aller. Investissez dans l'Assemblée chrétienne du Cap. Quand? Minimum à l'Assemblée générale qu'il va avoir. Si on veut que tout le monde puisse participer au changement dans l'Église, puis qu'on est 300 assis ici aujourd'hui, mais qu'on est 25 ou 40 ou 60 en moyenne, il faut prendre une décision pour l'ensemble. Où êtes-vous? Et quand les décisions difficiles vont se prendre, ou qu'il va falloir mettre d'autres anciens ou d'autres diacres, puis ça va en prendre, où allez-vous être pour donner votre appui pour qu'on puisse préserver l'unité? Si vous n'êtes pas là, dans les moments stratégiques, l'unité va être impossible à conserver. Puis je le dis, puis je le répète, et l'unité, ce n'est pas le rôle des anciens, c'est votre rôle à vous. Quatrième, soyez accueillants. Jeunesse, allez voir les plus vieux. Les plus vieux, allez voir les plus jeunes. Et là, il va y avoir un melting pot de toutes sortes de choses qui va commencer à être le fun. Et cinquièmement, je termine par ceci, résolvez les conflits d'une façon créative avec l'aide du Saint-Esprit et ne vous laissez pas enfermer dans des routines administratives parce qu'elles ont été efficaces dans le passé. Notre énoncé de mission s'avère être en définitive une introduction à la gloire, la grâce de Dieu. Vous avez besoin d'émerveillement, regardez ce que Christ a fait dans votre vie. Et à travers ça, soyons chrétiens. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, je vais te demander, je suis ici en avant, je vais te demander vraiment de toucher le cœur de cette Église. Ça ne serait pas normal qu'on cherche et qu'on force des personnes à s'investir pour notre jeunesse en bas. On a besoin autant pour laver les toilettes que pour déneiger, que pour être enseigné. Et apprends-nous à mettre chaque personne à la bonne place. Enseigne-nous, Seigneur, à vraiment mettre nos dons en pratique et à accepter les dons que nous avons pour qu'on puisse les manifester premièrement dans les petites choses. Et ensuite de ça, Seigneur, suscite un cœur dans ton Église pour la rue à côté, puis l'autre rue à côté, puis qui va s'en aller partout dans le monde, Seigneur, jusqu'à nos missionnaires qu'on a, Seigneur. Crée dans ton Église du Cap un engagement financier. Aide-nous à accepter s'il y a des projets qui ne fonctionnent pas et que je veux voir fonctionner. Aide-moi à l'accepter et à découvrir ta volonté. Aide-nous, Seigneur, en tant que corps et fais sortir ta gloire, premièrement dans nos vies, dans nos relations et dans le monde, Seigneur. Amen.